invité, une playlist, un mercredi soir sur deux, 20h-21h, pour deux pistes et sur Principe Actif.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 4 ans après Cut Up, les Hébreuïciens du groupe Metro Verlaine récidivent avec un deuxième album baptisé Funeral Party. Quelque part entre la France, l'Angleterre et les USA, entre Robert et Patti Smith, entre le post-punk et la cold wave, Funeral Party déroule sur 10 titres un univers sombre et singulier. Moitié du cœur fusionnel du projet Metro Verlaine, Axel est mon invité ce soir en direct et jusqu'à 21h sur les ondes de Principe Actif et j'en suis très heureux. Merci Axel d'être à mes côtés pour la dernière mission de l'année civile.
Merci pour l'invitation, Laurent.
Eh ben, c'est toujours un plaisir. Raphaël devait être avec nous ce soir, elle est malheureusement souffrante. T'étais venu en mars 2018 présenter Cut Up, votre premier album. Il s'est passé 4 ans entre ce disque et Funeral Party. La crise sanitaire est-elle la seule raison de cette longue gestation?
Non, pas que. Une fois qu'on a sorti Cut Up, on a pas mal tourné. On a eu la chance de voyager un peu, d'aller au Royaume-Uni et tout. Et je t'avoue qu'on a pas mal profité de tous ces concerts qui sont enchaînés. Et on s'est vraiment mis à composer fin 2019 pour un enregistrement en mars 2020.
En mars 2020, donc c'est assez... Voilà. On va pas mal parler de cette longue gestation, hein, vous qui fonctionnez plutôt à l'instinct. Et d'ailleurs, quel rôle a joué la crise sanitaire dans la construction de l'album? Il y a eu quand même pas mal de... Ça changeait pas mal la donne par rapport à un disque qui devait être enregistré au départ à New York.
Ouais, à la base, on devait enregistrer avec Jared, le chanteur leader de Vacant Lots, qui est un groupe qu'on aime beaucoup, qu'on avait découvert à Rock in the Barn juste avant la crise. On s'était super bien entendu et il y avait toute cette excitation de découvrir les États-Unis, New York et de travailler avec un mec comme ça. Et pour répondre à ta question, ça a changé plein de choses.
Ah, ça a presque tout changé d'ailleurs.
Et rien en même temps, parce que l'album est sorti, Metro Verlaine existe toujours et il y a déjà un troisième qui se prépare, quoi.
Et donc ça aurait été un deuxième producteur américain, on parlera de la production tout à l'heure, parce que vous êtes très en connexion avec l'Angleterre, forcément, qui est pas très loin, qui est moins loin que Marseille, t'avais dit, pour le premier album. On parlera justement du son américain un petit peu en cours d'émission. Je te propose déjà, puisque le temps va passer vite forcément, de nous présenter le premier titre de la sélection avec un excellent groupe cette fois-ci, Outre-Manche certes, et irlandais.
Tout à fait, c'est mon gros coup de cœur depuis 2018, c'est Fontaines D.C. et le morceau c'est I Love You.
Felt, I've never felt so well. And if you don't know it, I wrote you this tune to be here loving you when I'm in the tune. I've headed the hat now from Dublin to Paris. And if there was sunshine, it was never on me. So close the rain, so pronounced is the pain. Genocide and half-god pride, I
I understand. I had to be there from the start. I had to be the fucking man. It was a clamor of the life. I sucked the ring off every hand. Had a ploy and me with drink. Even met with their demands. When the cherries lined up, I kept the spoilings for myself. Till I had 30 ways of dying. Looking at me from the shelf. Cloud padded smile I had. A real good shawl I was. But this island's run by sharks and children's bones stuck in their jaws. Now the morning's filled with cokies trying to talk you through it all. Is their mommy being a gale and is their daddy being a bar? And they say they love the land but they don't feel it goes to waste. Pull a mirror to their youth and they will only see their face. Make flowers read like broadsheets. Every young man wants to die. Say it to the man who profits and the bastard walks boy. And the bastard walks boy. And the bastard walks boy. Say it to him 50 times and still the bastard won't cry. Will I lie?
I told you I do. It's all I've ever felt. I've never felt so well. And if you don't know it, I wrote you this tune to be here loving you when I'm in the tomb. System in our heads. You only had it before. Echo, echo, echo. The lights they go. The lights they go. The lights they go. Echo, echo. Selling genocide and hardcore fight. I understand. I had to be there from the start. I had to be the fucking man. It was the clamor of the life. I sucked the ring off every hand. Had a boy and me with drink. Even met with their demands. And I loved you like a penny loves the pocket of a priest. And I love you till the grass around my gravestone is deceased. And I'm heading for the cookies. I will tell about it all. But the gonna feel a gale and the fail of being a bar. Now the flowers read like broadsheets. Every young man wants to die. Say it to the man in profits. And the bastard walks boy. And the bastard walks boy. And the bastard walks boy. Say it to him 50 times and still the bastard won't cry. Will I lie?
Le groupe s'appelle Fontaine DC, ils sont irlandais. Le titre, c'était She Splits Me Up. C'est le
c'était premier. I Love You.
C'était I Love You, pardon.
I Love You.
C'était I Love You. Pour ouvrir la prog de cette programmation, très au-dessus du lot, les Fontaine DC.
Ouais, genre carrément. Ce que je te disais hors antenne, c'est que j'ai eu la chance de les voir dans un pub en 2018, juste après la sortie de Cut Up. Et c'était gratos, c'était un pub de la taille du Matari, ex-Matari. Et il faisait la première partie d'un groupe pas moins cool qui s'appelle Squid. Et ouais, c'était vraiment une claque, quoi.
Et c'est toi, petite parenthèse comme ça, sans faire de l'entre-soi, hein. C'est toi qui m'avais fait, c'est vous, toi qui m'avais fait découvrir ce groupe. Je me suis dit, waouh.
Bah ouais, parce que j'ai eu la chance d'y aller grâce à Elodie Godard, que les Ébroïciens connaissent sans doute très bien, vu qu'elle a été bénévole à l'abordage de nombreuses années avec sa copine Nadège Préauda. Et elle travaillait dans la musique à Londres et je suis allé chez elle une petite semaine après la sortie de notre disque et elle m'a traîné à un tas de concerts dont celui-là en me disant tu vas voir ces deux groupes-là dans 6 mois ça va cartonner blabla.
Et c'est ce qui s'est passé.
Et voilà.
Alors un artiste grandit sur scène, contexte sanitaire oblige, il n'y a eu aucune session live de ses morceaux au préalable pour les essayer. Comment vous avez géré cette particularité?
Bah écoute, on a pris le problème à l'envers, c'est-à-dire que j'ai pas mal bossé à l'appart avec Raph et puis en fait on s'est dit contrairement à Cut Up, viens on construit un album. Cut Up c'était aussi le mix de chansons qu'on jouait déjà, Manchester ça faisait 2-3 ans qu'on l'a joué et on a essayé vraiment de construire des ambiances en se disant de toute façon on est totalement libre, on peut mettre des boîtes à rythme, on peut mettre ce qu'on veut et on trouvera forcément des musiciens pour jouer les parties comme on les imagine quoi.
Et alors Cut Up, votre précédent album, tu me dis si je dis des bêtises, a été enregistré en 3 semaines, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Une heure de partie en 1 an.
3 semaines de fête et 1 an de dépression.
Pour un disque de fête. Avec une beauté assez désespérée quand même dans tous les cas. C'est un compliment que je vous fais là. Final Party, en 1 an, c'est ça, hein? 1 an d'enregistrement?
Ouais, quasiment 1 an parce qu'il a fallu s'adapter à tous les confinements, pas confinements.
Ouais, on savait pas trop où on allait, on savait pas pour combien de temps on était parti.
Et puis ça a été, c'est aussi le difficile deuxième album, tu sais, où il y a plein de doutes, plein de doutes existentiels parce que crise sanitaire, parce que vie personnelle, etc. Et en fait, ça a été génial de le construire comme ça avec Arthur Guégan, et le studio Octopus. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que le troisième, c'est mort. On fait comme cut-up, on s'enferme quelque part 3 semaines et on fait la fête et on enregistre.
Et alors du coup, ce temps de fabrication beaucoup plus long a laissé quelle marque sur le disque ?
Bah sur le disque, je sais pas, mais sur moi, une énorme marque. Et je t'avoue que la sortie physique, quand on a reçu enfin les vinyles, parce qu'il y a eu ça aussi, il y a eu le très très long temps de pressage entre l'envoi du master...
Il n'y a pas beaucoup d'usines de pressage, la Naxa premièrement, qu'on peut revenir comme ça rapidement. Hein.
Sur plein de choses, ça a mis quasi 9 mois, tu vois. On l'a envoyé en décembre 2021 et on l'a reçu fin mai 2022. C'est terrible, tu vois, t'as l'impression d'être un éléphant qui fait une gestation de 2 ans.
Très longue, et puis, alors par contre, quand tu t'appelles, enfin, comme ça très vite, on va pas trop digresser là-dessus, pour bosser dans le disque, bah en fait, l'effort, enfin, les disques qui sont produits, du coup, ils sont produits pour des très grosses sorties. Alors que le vinyle, c'est plutôt le support du rock indé.
Exactement.
J'en sais un peu piquer un truc sur ce coup-là.
Exactement. Mais en même temps, ça donne des trucs très drôles. Je crois que c'est Adèle qui a sorti un 45 tours et ses fans l'ont acheté en masse parce que juste, il faut l'acheter. Et il y avait plein d'avis négatifs sur Internet, tu sais, genre, mais non, pas du tout, c'est pas un disque d'Adèle, c'est une voix de mec et tout. Et personne n'avait dit, appuyez sur la touche 45 tours de votre platine parce que c'est pas la bonne vitesse.
Je te propose qu'on enchaîne déjà sur ton deuxième choix musical, parce que t'es aussi en tant qu'artiste et prescripteur, je pense, pour la culture musicale.
Tout à fait, je suis curateur.
Curateur.
Et ben écoute, comme tu parlais d'Amérique tout à l'heure et du producteur de Cut-Up, c'est Crocodiles avec le très très beau morceau She Splits Me Up. Your tongue and fluorescent skin.
les excellents Crocodiles de San Diego. Dis-moi si je dis des bêtises aux États-Unis.
Non, c'est ça.
Un son. Alors, je pense souvent, bien sûr, c'est Charles Orwell qui a produit votre premier album, qui a fait un boulot assez fantastique avec Arthur, d'ailleurs.
Avec Arthur,
il y a avec Arthur, il y a un truc, moi, je trouve en commun, tu me dis ce que t'en penses, entre Metro Verlaine et Crocodiles, même si votre musique est différente. C'est que, il y a un format pop, c'est-à-dire accessible à tous, avec cette espèce d'instantanéité, où tout de suite on est bien dans le titre, quoi, et il a un truc pop. Mais en même temps, il y a quelque chose de subversif. C'est-à-dire que c'est pas une pop qui obéit à des standards. C'est pas, qui sont vachement imposés dans la société dans laquelle on vit, et puis c'est pas d'hier. En même temps, il y a un truc un peu subversif. Donc je trouve que la démarche de Crocodiles, même si les deux groupes sont très différents, et celle de Metro Verlaine, elle se rejoint à cet endroit-là. Alors le confinement, c'était comment s'évader sans pouvoir bouger, ça, je crois que je reprends tes propos. C'est un peu le principe de l'art en général et tout processus créatif. C'est un autre monde qu'on invente avec un livre, un film ou un disque. Ça a été un moment privilégié pour certains d'entre nous pour lire, écouter de la musique, regarder des films plutôt que de déprimer en regardant la chaîne CNews. De quel univers artistique vous vous êtes nourri, tu t'es nourri à ce moment-là qu'on peut peut-être retrouver sur le disque Funeral Party?
Alors, je sais pas si on peut... Et en même temps, je trouve que tout ce qu'on aime quand on est quelqu'un de créatif, créateur, ou tu vois, ça, forcément, il y a des petits bouts un peu partout, mais comme tu t'en doutes, j'ai réécouté la discographie de The Cure en large et en travers.
Oui, tu ne lasseras jamais, je pense.
Oh non, peut-être mort. Peut-être une fois mort, j'en aurai assez. Mais je suis vraiment replongé dans les films de Ken Loach.
Ouais. Tu vois, avec un univers très particulier.
Exactement, mais en même temps très qui a aidé aussi à garder vraiment les pieds sur terre, parce que les films de Ken Loach, il y a quasi pas d'acteurs, de vrais acteurs et tout, et puis c'est des réalités, ce qui se passe c'est la vraie vie. Et en fait, ça allait aussi de pair avec tu vois, écouter Idols, Fontaine D.C., Shame, tout le renouveau post-punk. Je trouve que je dirais que j'ai vraiment essayé, parce que comme tout le monde, j'ai beaucoup regardé Netflix en déprimant et en me disant que ma vie serait finie. Mais j'ai essayé de garder ce penchant un petit peu working class britannique, tu vois, avec la musique, les films. Et puis, ce côté américain avec des groupes comme Ravonettes, Crocodiles et tout, un peu plus onirique, on va dire. Et la littérature beat encore, ouais, Beat Generation.
On va en parler juste après. La littérature beat, j'en profite pour m'insérer un petit peu là-dedans. Et on en parlait aussi à la première émission, on parlait de Lou Reed.
Tout à fait.
Ouais. Lou Reed, c'était donc une sublimation de la laideur urbaine. Et il en a fait quelque chose de merveilleux. Ken Loach fait de merveilleux des destins apparemment très ordinaires. Il les sublime.
Les losers
dans ce qu'ils ont de beau. Ouais. Il y a un truc comme ça aussi avec Metro Verlaine, je trouve, hein, de se dire, il pleut, il fait pas beau, on n'a pas de thune, bon, on va faire un truc et puis on va essayer de...
Bah oui, c'est carrément ça, mais c'est aussi... Ça,
c'est les fonctions de l'art. Excuse-moi, je t'ai coupé.
Les gens pensent souvent, tu sais, quand je dis ça, qu'en fait, je pique Évreux en tant que ville, mais ça fait aussi partie de moi, de mon être et tout.
Grandis là.
Voilà, c'est-à-dire que j'ai pas grandi à Manchester, à San Francisco ou même à Paris. Je viens d'Évreux, donc forcément, il faut aussi que j'arrive à ressortir ça dans mon travail, quoi, dans ce que je suis et tout. Et en même temps, c'est une force terrible. Terrible de vivre dans une ville moyenne de province, comme il y en a des dizaines. Si t'habites à Dijon, c'est pareil, enfin, tu vois. Et en fait, plus jeune, il y avait de la frustration. Je t'avoue que j'aurais rêvé être à New York, ou tu vois. Ça me pousse à écouter d'autres choses. Tu vois, de pas être dans l'entre-soi d'une scène, même si on en parlait hors antenne, la scène normande, il y a des trucs vraiment très cool et tout le monde se pousse un peu vers le, presque tout le monde se pousse un peu vers le haut. C'est bien aussi de pas être dans l'épicentre d'un truc formidable où de toute façon tout le monde s'attend qu'à New York il y ait 20 groupes qui sortent tous les 10 ans et qui révolutionnent le truc, quoi.
Et ça se passe pas toujours comme ça d'ailleurs. Il y a des scènes qui émergent, on sait pas où, de petites villes où il y a pas de salle, il y a pas de structure pour les accompagner, il y a pas de thunes et c'est là que ça se passe.
Et je pense notamment, c'est un truc que je me suis mis à écouter, c'est ma fin de réponse, la musique algérienne du Maghreb, c'est un truc sur lequel je me suis penché pendant le confinement, donc j'ai rien pris là-dessus. Mais tu vois, c'est voilà, t'écoutes des trucs qui sortent complètement de ton univers et tu te dis waouh, quel claque, quoi.
Et puis Internet permet aussi la circulation d'identifier ces groupes-là, notamment une scène, par exemple à Agadez, qui est formidable. Bah aujourd'hui, ces groupes-là, ils circulent jusqu'à ce qu'ils tombent dans les mains d'un producteur ou de quelqu'un qui bosse dans la musique et qui les met en grand jour. Mais alors, pour revenir à cette question que j'avais insérée, que j'ai posée à deux, trois personnes, quelles sont pour toi les fonctions de l'art? Là, on parle de musique dans la société.
Ah, dans la société.
T'as un peu répondu déjà à cette question.
Bah, je dirais, question vaste, je vais me placer en tant que qu'auditeur. Ouais. Moi, la musique, clairement, elle me sauve la vie, en fait. Ouais, simplement.
Et alors, t'es un fan de Jacques Kerouac, tu m'en parlais tout à l'heure, c'est pas étonnant, dont l'écriture est très instinctive. Alors, quelle place occupe l'instinct dans, quelle place occupait l'instinct dans l'écriture de ce deuxième album qui a eu un temps de gestation très long?
Bah, on a essayé de garder, tu sais, l'éthique punk, ce fameux truc dont on a beaucoup rigolé, toi et moi, trois accords c'est trop, deux c'est presque trop.
Bon, après, on change d'avis aussi. Hein.
Mais c'est vraiment de garder une espèce d'éthique punk. En fait, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses très belles, très mélodiques, travailler énormément sur les harmonies et tout, mais ça reste du rock'n'roll. En fait, ça reste du rock'n'roll, il faut que ça pulse, il faut que ça fasse pleurer, danser, avoir envie de baiser ou de se barrer à l'autre bout du monde, enfin, ressentir des trucs, quoi.
Puis il y a un sentiment de liberté, je pense que tu
veux,
par rapport à la question que je t'ai posée tout à l'heure, il y a un besoin d'émancipation, enfin de sortir d'une condition, on parlait des villes moyennes et des villes, enfin du nord de l'Angleterre qui est très pauvre, les très bons groupes viennent de là, ou d'une ville comme Dublin en ce moment, où il y a enfin une paupérisation de la population, il y a un besoin de sortir d'une condition. Je propose, il n'y aura pas de live ce soir, hein, je le rappelle. On fera peut-être l'année prochaine, la prochaine saison, ce sera avec plaisir
carrément,
quand je vous accueille pour une grosse session live à la radio. Le premier titre de l'album en studio, Funeral Party, c'est les Metro Verlaine.
I'm not afraid to die.
et les fans auront reconnu les Metro Verlaine, extrait de leur dernier album Funeral Party. Je te laisse désannoncer le titre, Axel.
Funeral Party.
Funeral Party. Alors, la nouveauté s'inspire toujours, ou presque toujours, ça te dira bien que moi de l'existant. Quelles ont été les figures centrales de la naissance du Metro Verlaine? On n'est pas revenu sur l'histoire du groupe parce qu'on l'avait déjà fait avec Cut Up quand il est sorti. J'ai pas voulu faire de redite. Les figures centrales de la naissance de Metro Verlaine. On a parlé de Kerouac.
Ouais, bah il y a la Beat Generation et puis enfin il y a aussi ce truc qui s'appelle The Cure, ce truc un peu monumental et qui a bouleversé ma vie. Je sais que pour Raphaël, c'était et c'est très important de le dire parce que tout à l'heure tu parlais de pop et tu vois un peu sale et tout. C'est la soul, la Motown et tout.
Motown.
Et on peut faire facilement des liens. En fait, on peut aimer les morceaux de punk de 2 minutes 30 et passer un 45 tours de Motown et se dire putain, c'est la même chose, un couplet, un refrain et on danse quoi.
Comment tu on parlait des goûts. Alors Raphaël n'écoute pas que de la soul.
Ah non, maintenant
de Motown évidemment, ça prend une place importante dans sa culture musicale. Toi, est-ce qu'on peut dire que ta culture musicale est plutôt, même si tu parlais d'ouverture, plutôt orienté, j'aime pas trop les étiquettes, mais on va être obligé d'y passer, post-punk, cold wave.
Ouais, carrément, carrément.
Comment, au départ du groupe, vous avez conjugué ces deux influences qui paraissent pas forcément compatibles au départ?
Eh ben, tu sais, au début, on était deux, donc
oui, je sais bien.
C'était simple. C'était simple de pour moi composer des morceaux dans l'esprit que j'aimais là où je voulais aller. Et Raphaël chantait comme elle avait envie de chanter par rapport à ce qu'elle aimait.
Ouais.
Et c'est avec le temps, en fait, où on a réussi à construire des ponts. Ça fait très, ça fait très politique ce que je dis, mais on a réussi à construire des ponts l'un entre l'autre. Et elle m'a fait aussi découvrir plein de choses. Et c'est important parce que moi, j'étais peut-être très enfermé dans ce truc très
c'est propre à l'âge aussi, etc. Quand on attaque enfin de voir d'être un peu
en même temps quand tu vois les vieux punks d'Evreux, t'as l'impression que l'âge n'arrange rien, mais mais je veux dire, c'est bien aussi de travailler avec des gens qui à la base ne sont pas un reflet de soi-même.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais cru possible si j'avais pas rencontré Raphaël. Les groupes minables de pseudo garage punk que j'avais fait avant, c'était avec les mêmes types de branleurs que moi et c'est jamais allé nulle part quoi. Donc c'est bien aussi d'aller chercher l'autre, mais dans ce qu'il est de autre.
Après le blues rugueux des débuts très garage avec une voix soul, ça a quand même tout de suite fonctionné à merveille. Hein. Pour vous avoir vu, il y a au tout début du Metro Verlaine, ça marchait quoi. Ça marchait. Et j'ai une petite surprise. J'ai été, tu sais que je travaille dans une bibliothèque, donc j'ai été mettre le nez dans les archives. Et j'ai trouvé un certain nombre de choses, dont un moment qui m'avait beaucoup touché, à Paris. Je vous le passe. Et puis, alors la prise de son est pour le moins rudimentaire. C'est un euphémisme, mais l'intention est là. Je vous laisse écouter. Parler de la belle voix soul de Raphaël. Voilà, c'était les tout débuts 2013-2014, 2013 sans doute, enfin, ou entre ces deux années-là. guitare, wow, chant, c'est au Truskel à Paris. Il y a eu un sacré bout de chemin de fait entre temps. Vous avez fait le très regretté rock dans tous ces états, vous avez ouvert pour Buzzcocks. Et c'est vrai que je suis un peu bah oui, moi aussi, ça fait quelque chose que j'étais là, et bah puis, ouais, et puis le temps passe. Carrément. Et puis c'est 1 minute 35, là, ce que vous venez d'écouter, de beauté brute. C'est-à-dire que le projet, il y a pas toute la partie production, etc. On va pas revenir sur l'histoire de ce live au Truskel. Bah, c'est là, en fait. L'essentiel est là.
Ouais, c'est marrant parce que, tu viens d'illustrer exactement ce que je disais avant. Et c'est drôle parce que juste, je me rappelle qu'on était venu avec la boîte à rythme et guitare électrique. Et que, on n'a jamais réussi à faire marcher la boîte à rythme. Et en fait, on a fini par jouer en acoustique et tout ce que Raphaël chante est de l'impro totale yaourtée avec deux accords et demi. Maintenant, quelques années après, je connais trois accords et demi, tu vois, comme quoi on progresse. Mais ouais, c'est très touchant d'entendre ça et ça rappelle que des bons souvenirs.
Moi, je te cache pas que ça
et je te remercie parce que t'as failli me faire chialer.
Alors, on va continuer à changer. Alors, la nouveauté. D'ailleurs, tiens, j'en profite quand même. Parce que, alors moi, quand j'ai vu que vous ouvriez pour les Buzzcocks, je veux dire, entre ce moment au Truskel en 2013-2014 et puis à l'Olympia, tu me dis si j'ai bon sur la salle.
C'était Élysée-Montmartre.
À l'Élysée-Montmartre, pardon. Ça fait quoi d'ouvrir pour Buzzcocks avec Pichelé et...
Bah écoute, ça fout les jetons, mais ça rend super fier.
Ouais, il y a de quoi. Combien de morceaux vous avez écrit avant d'en garder 10 pour Funeral Party, pardon?
Oh bah, je t'avoue que là, peut-être 30, pas loin de 40, ouais. Moi, j'ai des bouts de maquettes de partout, insupportable.
Ça peut vouloir dire un troisième album rapidement, ou c'est trop tôt pour le dire, on verra?
Ah bah, si, avec Raph, on a envie, dès cet hiver, là, d'enregistrer un truc et de le sortir dès 2023.
Et alors, un artiste grandit sur scène. Tu me dis, si moi qui ai fait de la scène une fois dans ma vie, j'ai pas observé de grands changements en ce qui me concerne. Mais, contexte sanitaire oblige, il y a eu aucune session live donc de ces morceaux au préalable pour faire la sélection des titres que vous alliez garder pour le disque. Comment vous avez géré cette particularité qui est très Covid, quoi? C'est-à-dire que là-bas, la manière d'enregistrer, de sélectionner des titres, elle a changé par rapport au monde d'avant.
Bah ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment pensé le truc comme un album, mais ce qui est intéressant maintenant, c'est de les jouer en live, en fait, tu vois, ça a été ça, de retrouver le live.
Ouais, ça fait du bien, hein.
Avec de nouveaux musiciens et de nouvelles chansons, et de se dire, ouais, c'est tellement casse-gueule, on a juste fait quelques répètes et on les a construites à deux et demi avec Arthur. Tu vois, qui a aussi participé au processus. Mais Raphaël et moi, on a vraiment tout construit à deux. Et là, de se dire, OK, on est devant, il y avait 100, 150 personnes à Rouen. On les joue, on les a jamais joués. Ça se trouve, ça va être catastrophe.
Et puis ça fonctionne.
Et l'énergie l'a emporté, quoi.
Je te propose qu'on écoute un nouveau titre de ta playlist.
Ouais, bah écoute, t'as parlé des Buzzcocks. Ça me donne bien envie d'écouter le Buzzcocks.
Je m'en doutais un petit peu.
Et le morceau, c'est Everybody's Happy Nowadays.
I was tired of being upset. Always wanted something I never could get. Life's an illusion.
et c'était les excellents Buzzcocks de Manchester. Tu me redis le titre que j'ai pas derrière mon PC.
C'était Everybody's Happy Nowadays.
Un petit peu comme nous là maintenant. Pareil, Buzzcocks, hein, le punk mais avec mes mélodiques. Sans rien perdre la substance, enfin la démarche originelle du punk. Qui est,
les Ramones sont mieux, quoi.
Bah oui, les Ramones sont beaucoup plus délicats. Même si j'aime beaucoup les Ramones. Alors, on va parler d'enregistrement maintenant. Il s'est passé comment l'enregistrement de cet album? C'est à l'Octopus Garden Studio d'Arthur Guégan, qui a produit le premier album et qui est par ailleurs musicien au sein du groupe. Quel type de production, enfin quelle couleur vous vouliez donner à l'album et comment vous vouliez que l'enregistrement se passe?
Alors déjà, c'est un album qu'on a bossé au studio Octopus, qu'on a bossé à la campagne et qu'on a bossé à Biarritz, parce qu'on a eu le plan par Charlie de Crocodiles d'aller jusqu'à Biarritz pour enregistrer dans les studios de Quicksilver. Et en fait, c'est un album où moi, personnellement, j'ai pris plus de place dans la prod, dans l'arrangement, etc. Et on a vachement travaillé avec Raph et Arthur sur une couleur. Notre blague, c'était il faut faire du Jesus and Mary Chain qui aurait croisé Idols. Voilà.
C'est pas mal comme référence. Hein.
Ouais.
Et Arthur a pené sa patte aussi sur l'ensemble.
Oui, carrément. En fait, il a joué plein de trucs qu'on a refusés, ce qui nous a permis d'aller à l'essentiel.
je plaisante.
Non, bah, comme d'hab, Arthur toujours à l'écoute et bienveillant.
Et donc, vous avez gagné de l'autonomie depuis Cut Up, et bah, l'autonomie, c'est toujours synonyme de liberté. On parlait du son tout à l'heure, on parlait d'Arthur Guégan.
Sur le son, il y a un truc qui diffère vraiment de Cut Up, c'est que, pour le coup, Funeral Party, c'est un album qui a été composé pour deux guitares. Et ça, pour moi, ça fait une énorme différence, c'est-à-dire que Cut Up, j'étais seul, et on a pris un deuxième guitariste pour faire des arrangements de live, et là, j'ai vraiment pensé le truc en mode deux guitares. Et on a eu la chance de tomber sur Pierre Cabane, parce qu'il faut aussi parler...
On parlera aussi, Pierre Cabane, on avait parlé notamment pour la sortie de Motel.
Exactement, mais qui est un mec en or et qui a tout de suite compris là où on voulait aller en son live. Et je lui dis pas trop, mais c'est une chance de l'avoir avec nous.
S'il nous écoute, il le sait. Je te propose de poursuivre la programmation musicale de ce soir parce que ce qu'on disait, le temps passe très vite. Et tu parlais de Jesus and Mary Chain.
Bah ouais.
Groupe qui fait aussi référence dans ta discographie.
Tout à fait, carrément. D'ailleurs, Funeral Party, le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, c'est vraiment une tentative de faire du Jesus, mais à la normande. Voilà.
Live our lives in
êtes dans l'émission Tour de Piste sur les ondes de Principe Actif, la radio évreuxienne. Je suis avec Axel Verlaine des Métro Verlaine pour parler de Funeral Party, leur deuxième long format sorti fin mai de cette année. Le titre que vous venez d'entendre à l'instant, ce magnifique titre acoustique, porte la signature de Jesus and Mary Chain, groupe qui a influencé Métro Verlaine évidemment. Il s'appelait About You. Très beau morceau. Le rock, on l'a dit, est un peu intergénérationnel. C'est-à-dire que les gens de mon âge ont été biberonnés par Jesus and Mary Chain. Et vous, à votre manière, bah vous, c'est un héritage dont on, bah que vous portez aussi. On parlait tout à l'heure de, très rapidement, comme ça, de, d'une bande dessinée que, pour laquelle tu as fait le scénario. Elle s'appelle Motel. Elle a été, co-écrite avec, donc, Axel. Maël Dupuis.
Je l'ai co-écrite avec moi-même.
Qui s'est chargé d'illustration et toi du scénario. Donc ça fait partie des projets en marge du groupe. T'as écrit Balade Sauvage aussi en 2017. Qu'est-ce qui distingue l'écriture d'un livre ou d'un scénario de bande dessinée à celle d'une chanson?
Bah, je sais pas trop. Je fais ça un peu de la même manière. Et c'est un mot que t'as employé tout à l'heure et que j'aime bien, c'est instinct. Voilà, c'est, ouais. Il faut faire les choses. C'est comme une chanson. Il y a un début, des temps forts, des temps calmes et une fin. Je le prends de manière un petit peu punk. Voilà, ouais, je me dis. Puis j'ai eu de la chance de tomber sur Maël aussi, qui voilà, a ouais, un énergumène
qui nous écoute
terrible.
Peut-être et qu'on embrasse.
J'espère.
Et en plus, je reviens là-dessus comme ça rapidement pour ceux qui n'ont pas lu, Motel, donc que dont tu as fait le scénario. Et ben déjà, est-ce qu'on peut l'acheter, si on peut encore l'acheter?
Ah
et
bah
puis,
oui,
ce
ouais.
Ce que ça raconte, c'est aussi des histoires de perdants magnifiques, de héros du quotidien, et puis de ce que le rock a de beau, c'est-à-dire qu'une bande de copains qui essaie de sortir aussi d'une condition parfois insupportable.
Bah tout à fait, ouais, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure sur, tu sais, les groupes américains ou anglais qui crèvent la dalle, dorment dans des vannes et n'ont rien d'autre à foutre que de beugler leurs chansons dans des micros devant 50 personnes tous les soirs. Bah, c'est un peu ça, Motel.
Alors, ton expérience en tant que scénariste justement de BD, là pour Motel, est-ce qu'elle a eu un impact sur l'écriture de ce nouvel album? Est-ce que le fait d'avoir écrit Balade Sauvage il y a quelques années et plus récemment Motel, est-ce que dans ta manière d'écrire, ça a changé un truc?
Ça m'a libéré, je pense, d'écrire Motel, parce que dans Métro Verlaine, j'écris les chansons seul, et le roman que j'avais fait, j'étais seul aussi, ouais. Et là, en fait, je soumettais tout. Maël est la seule personne qui a eu un droit de découper, tu vois, dans le récit que je lui ai envoyé.
C'est un sacré privilégié, hein.
Ouais, mais il en a bien profité, d'ailleurs.
Ouais, ça m'étonne pas. Alors, pour poursuivre un peu cette idée-là, de quelle matière première se sont nourris les textes de Funeral Party? Sachant qu'on vient, en plus, on vient de subir quand même un changement de société depuis 2-3 ans. Il se passe un truc, quoi.
Ah bah là, pour le coup, c'était vraiment... j'ai l'impression que ça parle vraiment de ma vie, en fait. De ma vie, de mes expériences, de mes dépressions, de mes craintes, de mes addictions, de ma vie. Ouais.
Et ça, c'est des thématiques qui parlent à tout le monde.
Ah bah, je pense que j'ai la vie de monsieur et madame tout le monde avec juste un petit peu plus de Guinness dans la poche.
On se fait une petite pause avec les Ravonettes.
Grave, grave.
Card in the Night. ça s'appelle Les Ravonettes. C'est un très bon groupe. Le morceau s'appelle Curse the Night. Ce sera ton avant-dernier choix pour la playlist ce soir, Axel. J'ai pas fini de te poser des questions indiscrètes. Je rappelle qu'on se connaît bien. Alors, on parlait du projet Motel, du projet de Balade Sauvage, son premier roman. Est-ce que tu as d'autres projets artistiques en marge de Métro Verlaine, pas forcément musicaux d'ailleurs, et qui viennent nourrir aussi à la fois ton imaginaire, donc ton écriture, donc ta manière de composer?
Bah ouais, je me suis mis sérieusement à la photo là, un peu sous l'impulsion de Raph aussi, qui en fait depuis quelques temps. J'ai commencé un deuxième roman, mais qui va me prendre un peu de temps, je pense. Qui va me servir de thérapie et de porte d'entrée à la gloire. Et puis, je travaille aussi sur un disque solo là.
Sur un disque solo. Alors ouais. C'est quand même quelque chose. Je t'ai pas posé la question par hasard. Mes questions ont l'air comme ça assez bateau, mais je me suis longtemps interrogé.
Non, tout va bien.
Sur ça, et tu vois, l'absence de Raphaël ce soir, c'était aussi de se dire, est-ce qu'il va jouer seul, guitare chant ou pas?
Pas du Métro Verlaine, non. Je pourrais pas, parce que c'est un truc qu'on a compris.
C'est votre bébé, Métro Verlaine.
Hein. Mais tu vois, je bosse sur un disque sans Métro Verlaine, mais j'ai besoin de l'aval de Raph et de conseils techniques. Je pense... Et c'est un truc que je pensais en venant à l'émission. C'est marrant parce que je pense que créativement, d'une certaine manière, je serais toujours lié à Raph.
Oui.
Et je pense que l'inverse est réciproque.
Je trouvais les mots de David Chappelle qui a écrit un article sur votre album, qui est très bien écrit, comme David sait le faire. Il parlait de cœur fusionnel du groupe.
Ouais, il y a un truc. On est un peu comme un frère et une sœur. Enfin, je sais pas. Il y a un truc.
En tout cas, Métro Verlaine, c'est votre bébé. Ça, je
tout
pense
à fait.
Qu'on peut le dire. Alors, tu avais déclaré, on n'avait plus, ouvrez les grosses guillemets, on n'avait plus du tout envie d'être catalogué rock français. Surtout que ça n'a jamais été ce qu'on a eu la sensation de faire. Comment tu définirais l'identité de base du groupe Métro Verlaine?
Ben tu vois, ce qu'on a mis en étiquette justement pour envoyer à la presse de Cut Up, c'est un truc en fait, maintenant je trouve ça a du sens de pop sauvage. Voilà, c'est de la pop sauvage. Et on est des personnes pop sauvages, j'ai l'impression.
Un format qui marche dans l'instant et en même temps qui garde ce côté cradingue dans le bon sens du terme.
Ouais, carrément. Et libre surtout.
On va vite fait un petit mot sur la pochette.
Alors la pochette, ouais, et puis c'est important de le dire, parce qu'en fait, on parlait vite fait de la scène normande tout à l'heure, qui est un petit peu en ébullition et tout. Il se passe des choses très cool, alors on est sur le même label que We Hate You Please Die.
Et oui, alors si jamais ils nous écoutent, groupe génial aussi. Hein.
Et s'ils nous écoutent, vous me devez 10 balles.
Non mais super ouf, hein, moi les We Hate You Please Die, j'adore leur démarche.
C'est ouf.
Vous êtes signé sur la même structure que...
Les U-Set aussi.
Et les U-Set,
parce qu'on est en partenariat, ouais. Le Sep Records et Kids Are Lofi. Enfin, tu vois, il se passe des choses hyper intéressantes.
Il y a une nébuleuse, je trouve. Enfin, après, tu as bossé avec Agathe aussi, Agathe Plaisance.
Avec Arthur, on a produit le premier album d'Agathe.
Ouais.
Et c'est un truc dont
sort,
je suis plutôt fier.
Qui
sortira
bientôt,
quand ce sera
il sera prêt.
Le bon moment.
Qui va être lui aussi un disque très prometteur.
Mais la pochette, du coup, voilà, c'est une photo de Charlotte Romer. Qui a fait aussi des très belles photos pour les U-Said et qui fait d'excellentes photos et qui fait des expos extrêmement intéressantes. Et le design, Pauline Lallemand. Voilà.
T'as des remerciements particuliers à faire par rapport à ce deuxième disque et par rapport au parcours de Métro Verlaine?
Bah oui, je voudrais remercier Raphaël pour tout ce qu'on s'apporte depuis maintenant presque une dizaine d'années. Je voudrais remercier Arthur pour... sa présence, nos potes, toi qui as été là aussi au tout début de Métro.
Et puis
je voudrais remercier, je pense, la vie d'avoir été dur un long moment avec moi. Mais aujourd'hui, je suis heureux et amoureux et je veux remercier la vie.
C'est super. C'est à la fois, enfin, l'ombre et la lumière se croisent hein, sur les morceaux de Métro Verlaine, mais c'est aussi ça la vie. Avant qu'on s'embrasse sur la bouche dans ce direct, des dates à venir? Parce que ça, on n'en a pas parlé.
Ouais, bah on joue au festival à Paris, festival du Supersonic qui s'appelle Restons Sérieux. On joue à Angers pour un équivalent des Terrasses du Jeudi, et ça va être très très cool aussi. Et puis release party au Cube à la maison.
Ah oui, ça c'est vachement important.
23 ou 24 septembre, ça dépend des sites internet et du chargé de com du Tangram.
Enfin, dans ce coin-là en tout cas. On va se quitter, mon cher Axel. C'était comme à chaque fois un plaisir et un bonheur de t'avoir sur le plateau. Et pour défendre ce beau projet. Où est-ce qu'on peut trouver à Évreux ou aux alentours ou ailleurs votre disque Funeral Party?
Eh ben écoute,
sachant qu'il faut aller chez les disquaires, c'est bien les disquaires.
Faut aller chez les disquaires, c'est mieux que tout. Et on va bientôt se poser avec Raphaël chez Sport, avec des bacs de vinyle et faire une espèce de dédicace où on boit une bière, on discute et vous prendre un disque.
On en a pas parlé de ça, mais il y a un format dans le physique, un format CD, un format vinyle.
On a fait les deux.
Alors j'annonce, avant de lancer le titre qui va clôturer cette émission, le mercredi 7 septembre à 20h, si le ciel ne nous tombe pas sur la tête, je recevrai et ben justement Martin Carrière de Youssef Strange qui viendra nous présenter la 13e édition du festival Le Bon Rockin, celui qui a lieu sous les tonnelles à la ferme Bionval le 9 et 10 septembre. Un dernier merci Axel, je vous souhaite bel été à tous, après quand même les années difficiles qu'on a vécues, et puis cette année 2022 qui a commencé assez bizarrement, il reste l'art pour s'émanciper de tout ça. On se quitte avec Life is a Riot des Métro Verdel. Bonne soirée.
Salut.
Salut.